Tout d'abord, j'aimais remercier le chœur pour cette belle interprétation de ce chant. Merci beaucoup. Il y a 33 ans, pendant mes études à l'Université Brigham Young, j'ai un peu contribué à une veillée semblable à celle de ce soir. Le président Kimball était l'orateur et j'ai marché à ses côtés lorsqu'il est allé vers l'entrée du Marriott Center. Je lui ai demandé s'il lui arrivait d'avoir le trac devant un si grand auditoire. Il m'a répondu en souriant, « Frère Anderson, vous savez que les Écritures disent, si vous êtes préparé, vous ne craindrez pas. Et moi, je tremble de la tête aux pieds. Ce soir, je sais ce qu'il ressentait. J'exprime mon amour et mon respect pour chacun de vous qui êtes assis ici et pour vous qui êtes réunis dans le monde entier. Je connais votre bonté et votre dévouement envers l'Évangile, votre foi et votre espoir en l'avenir et votre désir de plaire à votre Père Céleste. Je prie que l'Esprit du Seigneur bénira mes paroles et votre compréhension. Je veux vous parler de la main directrice du Seigneur dans notre réunion de ce soir. Au début du mois de janvier, j'ai travaillé pour organiser et préparer ce que j'allais vous présenter. Sachant que Frère Bednar devait vous adresser la parole en février, je me suis demandé s'il avait mis au point le sujet qu'il allait traiter. J'ai été surpris qu'il réponde que le sujet de son discours était de se tenir fermement à la barre de fer. C'était exactement le titre que j'avais choisi pour le mien. Le chœur s'entraînait déjà pour ce beau morceau de musique qu'il vient de nous interpréter. Quand Frère Bednar et moi avons discuté des discours que nous avions préparés, il a été évident que nous n'avions pas abordé le sujet de la même manière. Frère Bednar a réfléchi un instant, puis il a dit, « Le Seigneur aime les jeunes adultes de l'Église. Il y a une raison à cela. C'est le message que le Seigneur veut voir traiter. Et moi, j'ai décidé de poursuivre. » Alors, une semaine plus tard, et avant le discours de Frère Bednar, le président Boyd K. Packer, président suppléant du Collège des Douze Apôtres, a fait un discours lors d'une réunion spirituelle de l'Université Brigham Young qu'il a intitulé « Le songe de Léhi et vous ». Il a aussi inclus dans son discours ce que signifie de se tenir fermement à la barre de fer. Mes frères et sœurs, c'est le sujet auquel le Seigneur veut que vous réfléchissiez. Vous vous rappellerez les discours du président Packer et de Frère Bednar, et grâce à votre étude personnelle du Livre de Mormon, les éléments clés du songe de Léhi de l'arbre de vie. Frère Bednar nous a enseigné que l'arbre de vie, défini comme l'amour de Dieu, est la représentation de Jésus-Christ, et que la joie et le bonheur de prendre du fruit de cet arbre symbolisent les bénédictions du sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Il y avait aussi un grand et spacieux édifice. Le discours du président Packer m'a ouvert l'esprit à de nouveaux modes de pensée sur cette partie du songe. Et vous trouverez ce discours sur le site byu.edu. Dans ce songe, il y avait également un brouillard de ténèbres qui représente les tentations du diable. Ce brouillard obscurcissait le sentier qui conduisit à l'arbre. Enfin, il y avait une barre de fer qui représente la parole de Dieu qui permet à chacun de réussir à traverser le brouillard de ténèbres et d'arriver à l'arbre. Le chœur a très bien chanté « Tiens la barre de fer ». Elle est solide, belle et vraie. La barre de fer est la parole de Dieu. Elle nous guidera en toute sécurité. Et nous avons beaucoup aimé l'entendre en espagnol et en portugais. On aimerait pouvoir l'écouter dans toutes les langues. Néphi nous a promis que quiconque prêtait l'oreille à la parole de Dieu et s'y tenait fermement ne périrait jamais. Et les tentations de l'adversaire ne pourraient pas non plus avoir le dessus pour l'entraîner vers la destruction. La barre de fer est en effet la parole de Dieu. Je me plais à y penser ainsi. La parole de Dieu contient trois éléments puissants qui se mêlent et en soutiennent un autre afin de former une barre inébranlable. Ces trois éléments sont, premièrement, les Écritures ou les paroles des prophètes anciens. Vous vous rappellerez la question frappante de Frère Bednar le mois dernier. Est-ce que vous et moi lisons, étudions et sondons les Écritures quotidiennement d'une manière qui nous permet de tenir fermement la barre de fer? Le deuxième élément de la parole de Dieu est la révélation et l'inspiration personnelle qui nous viennent par le Saint-Esprit. À ce propos, le président Packer a dit dans son discours, si vous tenez la barre de fer, vous pouvez sentir que vous avancez avec le don du Saint-Esprit. Saisissez-vous de la barre de fer et ne la lâchez pas. Par le pouvoir du Saint-Esprit, vous pouvez sentir comment avancer dans la vie. Le sujet dont moi je traite ce soir est le troisième élément, un ajout essentiel se mêlant aux deux autres. Cette troisième partie de la barre de fer représente les paroles des prophètes vivants. Nous devons aussi nous tenir à la parole de Dieu prononcée par les prophètes modernes. Je prie qu'à partir de notre rencontre de ce soir, nous fassions plus attention aux enseignements des prophètes modernes, que nous réagissions plus vite à ce qu'ils nous apprennent et que nous approfondissions notre compréhension de ce que signifie se tenir fermement à leurs paroles. Il y a de nombreuses années, George Q. Cannon, alors membre de la première présidence, a dit « Nous avons la Bible, le livre de Mormon et le livre des doctrines et alliances. Mais tous ces ouvrages, sans les oracles vivants et sans le flot constant des révélations du Seigneur, ne mèneraient personne au royaume céleste de Dieu. » Cette déclaration peut paraître étrange, mais aussi étrange qu'elle paraisse, elle est néanmoins vraie. Bien sûr, ces livres sont d'une valeur infinie. On ne saurait trop les recommander ni trop les étudier. Mais par eux-mêmes, et malgré toute la lumière qu'ils peuvent apporter, ils ne suffisent pas à guider les enfants des hommes et à les mener en la présence de Dieu. Pour y être guidés, il leur faut une prêtrise vivante et une révélation constante de Dieu selon les situations dans lesquelles ils se trouvent placés. Bien sûr, nous qui sommes ici ce soir, nous aimons le président Hinckley, les deux conseillers dans la première présidence et le collège des 12 apôtres. Mais tout en reconnaissant notre amour et notre loyauté, je demanderais, pouvons-nous être plus attentifs aux conseils et aux enseignements de ces frères, plus engagés à les appliquer, plus désirés de les sonder et à y répondre? Pensez à la manière de répondre aux questions suivantes. Pourriez-vous me dire le nom des trois membres de la première présidence et celui de chacun des membres du Collège des 12 apôtres? Ce sont les 15 hommes que vous et moi soutenons comme prophètes, voyants et révélateurs. Si nous devions montrer une photo de ces frères, reconnaîtriez-vous chacun d'eux? Il est rare que nous fassions très attention à quelqu'un que nous ne reconnaissons ou que nous ne connaissons pas. Pourriez-vous me dire les conseils qu'ont donné la première présidence et le Collège des 12 apôtres lors de la dernière conférence générale? Et pourriez-vous définir les soucis des présidents Hinckley, Monson et Faust contenus dans les messages de la première présidence des trois premiers numéros du Liaona de cette année? Plus important peut-être, pourriez-vous me dire une décision récente par laquelle vous avez changé quelque chose dans votre vie grâce au conseil de l'un de ces 15 hommes? La raison de l'importance de nos réponses à ces questions est dans l'appel et la responsabilité de la première présidence et des 12 apôtres. Chaque fois que l'Église du Seigneur est établie, le Seigneur appelle des prophètes et des apôtres. Le Sauveur a dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. » Cette ordination donne à ces hommes un pouvoir spirituel et une responsabilité solennelle, le pouvoir de connaître et de témoigner et la responsabilité d'enseigner et de bénir. Elle nous donne aussi une responsabilité, une promesse. Nous avons la responsabilité d'écouter et de suivre, ainsi que la promesse que des bénédictions suivront si nous croyons à leurs paroles et les mettons en application. Quand le Seigneur a appelé 12 disciples sur le continent américain après sa résurrection, il a enseigné au peuple, je cite, « Bénis serez-vous si vous êtes attentifs aux paroles de ces 12 que j'ai choisis de parmi vous pour vous enseigner et pour être vos serviteurs. » À notre époque, en des temps très difficiles, le Seigneur a promis aux saints, « Si mon peuple veut écouter ma voix et la voix des serviteurs que j'ai nommés pour diriger mon peuple, voici, en vérité, je vous le dis, ils ne seront pas enlevés de leur place. » C'est là le plan du Seigneur. Il appelle 15 hommes parmi des hommes de conditions ordinaires et les dote des clés du pouvoir de nous guider et de nous diriger. Nous ne sommes pas forcés d'obéir. Il n'y a aucune contrainte. Mais si nous voulons prêter attention à leurs paroles, les appliquer et être prêts à changer notre comportement lorsque le Saint-Esprit confirme leurs conseils, nous ne serons pas enlevés de notre place. C'est-à-dire que nous nous tiendrons fermement à la barre de fer et resterons à jamais en sécurité sur le sentier qui conduit à l'arbre de vie. Comment rechercher les conseils de nos prophètes vivants et nous y tenir fermement? Analysons la question en réfléchissant plus profondément aux trois mots que nous utilisons pour soutenir ces hommes, prophètes, voyants et révélateurs. Premièrement, le mot « prophète ». L'apôtre Jean a dit « Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Les prophètes témoignent du Christ. » Leur témoignage sûr du Christ vivant est l'une des plus grandes bénédictions qu'ils accordent à l'Église et au monde. Le Seigneur a déclaré que ces hommes doivent être les témoins spéciaux du nom du Christ dans le monde entier. Par-dessus tout, leur voix s'élève pour témoigner de sa divinité et de sa réalité. Ce témoignage, rendu par leur apostolat et fortifié par leur ordination, peut avoir un effet important sur ce que nous ressentons. Ils expriment simplement leur témoignage en laissant le Saint-Esprit faire entrer le témoignage dans notre cœur. Par exemple, nous pouvons les entendre témoigner, entre autres, en ces termes. Aussi sûrement que je sais que nous sommes ici, vous et moi, je sais que Jésus est le Christ. Il vit. Ou bien, j'ai la connaissance certaine que Jésus est notre Sauveur divin, notre Rédempteur et le Fils de Dieu le Père. Je connais cette réalité par une perception si sacrée que je ne peux pas en faire le récit. Ces déclarations sont puissantes, mais c'est la confirmation spirituelle qui les accompagne, qui brûle dans notre cœur et nous renforce.
Explaining the role of angels.
Pour expliquer le rôle des anges, Moroni a dit, et l'office de leur ministère est d'appeler les hommes au repentir et d'accomplir et de faire l'œuvre des alliances que le Père a faites avec les enfants des hommes, pour préparer le chemin parmi les enfants des hommes, en annonçant la parole du Christ aux vaches choisies du Seigneur, afin qu'ils témoignent de lui. Et ce faisant, le Seigneur prépare le chemin pour que le reste des hommes aient foi au Christ, pour que le Saint-Esprit ait place dans leur cœur. La première présidence et le collège des 12 apôtres sont les vases choisis du Seigneur. Notre foi au Seigneur se développe pendant toute la durée de notre vie. Il peut y avoir des moments de doute ou de découragement où nous nous sentons comme enveloppés du brouillard des ténèbres. Ne sous-estimez pas ce que chacun de nous peut recevoir par le témoignage solennel et sûr du Sauveur rendu par ses témoins spéciaux. Ce témoignage, reçu dans un esprit de foi, nous fortifiera dans les moments de difficulté et nous donnera un appui ferme lorsque nous avançons sur le sentier vers l'arbre de vie. Tenez-vous fermement à la parole des prophètes. Méditez sur elle. Croyez-les. Ayez confiance en elles. Suivez-les. Je vais vous donner un exemple. Un de mes amis, jeune marié, a perdu sa petite fille à la suite d'un accident tragique. Les mois qui ont suivi, avec la solitude, les pourquoi et la tristesse, le doute a commencé à s'installer dans sa vie. Il m'a dit qu'il n'était plus sûr de ce en quoi il croyait. Je lui ai suggéré, dans ces moments difficiles, de vouloir céder un peu moins à ses doutes et de se fier un peu plus aux paroles du Sauveur et des vases choisis du Sauveur. Mon ami s'est plongé dans les Écritures, dans les promesses du Sauveur et dans le témoignage courageux et rassurant des prophètes actuels. Il s'est tenu fermement à leur témoignage sûr du Sauveur quand le sien semblait défaillir. Il s'est tenu fermement à la barre de fer, et avec le temps, les ténèbres se sont dissipées. L'arbre est redevenu visible, et mon ami a mangé du fruit précieux du sacrifice expiatoire. Ensuite, qu'est-ce qu'un voyant? Dans le livre de Mormon, Ammon explique le rôle d'un voyant au roi Limhi. Mais un voyant peut connaître les choses qui sont passées et aussi les choses qui sont à venir. Et c'est par eux que tout sera révélé. Et les choses qui ne sont pas connues seront révélées par eux et il y aura aussi des choses qui seront révélées par eux que l'on ne pourrait connaître autrement. Regardez cette belle photo. Que voyez-vous? N'aimeriez-vous pas faire du canoë dans ce cadre paisible? N'est-il pas attirant? Et si votre vision était soudain plus panoramique et vous voyez cela? La balade en canoë serait très différente de ce que vous aviez vu en premier. Spirituellement, les voyants peuvent avoir la vision panoramique. Ils voient ce que nous ne voyons parfois pas. Leurs paroles et leurs conseils nous aident à avoir la vision panoramique. Si nous les écoutons, en nous tenant fermement à la barre de fer, nous serons en sécurité. Je vais vous donner un exemple. Le président Hinckley a parlé énergiquement des bénédictions de la dîme. Il a dit, quand il nous parle en tant qu'autorité générale, mais il a dit, nous pouvons payer notre dîme. Ce n'est pas tant une question d'argent que de foi. Je vous exhorte, chacun d'entre vous, à suivre la parole du Seigneur dans ce domaine important. Nous répétons ce que le Seigneur a promis jadis par l'intermédiaire du prophète Malachie, à savoir qu'il ouvrirait les écluses des cieux à ceux qui sont honnêtes avec lui dans le paiement de leurs dîmes et de leurs offrandes, de sorte qu'il répandrait la bénédiction en abondance. En automne 2001, trois membres des 12 se trouvaient ensemble au Brésil et chacun a enseigné les promesses résultant du paiement d'une dîme honnête. Quelques mois plus tard, une jeune étudiante de São Paulo a été mise à l'épreuve. Elle travaillait et faisait des études. Voici ce qu'elle a dit au président Hinckley. À l'université où je faisais mes études, une règle interdisait aux étudiants qui n'avaient pas payé l'université de passer des examens. J'ai eu de grosses difficultés financières. J'ai reçu mon salaire un jeudi. Et lorsque j'ai calculé mon budget pour le mois, je me suis aperçu que je n'aurais pas assez d'argent pour payer à la fois ma dîme et mon université. Je devais choisir entre les deux. Les examens bimestriels allaient commencer la semaine suivante et si je ne m'y présentais pas, je pouvais rater toute mon année. J'étais dans une grande détresse. J'étais déchiré. J'avais un choix difficile à faire et je ne savais pas quoi faire. En priant, elle a décidé qu'elle ferait confiance au Seigneur et aux paroles des prophètes. Le dimanche, elle a payé sa dîme. Le lendemain, elle a cherché le moyen de passer ses examens, mais n'a pas trouvé de solution. Puis, elle a expliqué ce qui s'est produit. La journée de travail allait se terminer lorsque mon patron est venu me voir pour me donner les dernières instructions de la journée. Soudain, il s'est arrêté et m'a demandé, en me regardant, « Comment vont vos études ?» J'étais étonné. La seule chose que j'ai pu répondre d'une voix tremblante a été « Tout va bien ». Il m'a regardé d'un air pensif. Puis il est parti. Quelques instants plus tard, la secrétaire est entrée dans le bureau en disant que j'avais beaucoup de chance. Le patron venait de lui dire qu'à partir de ce jour-là, la société allait entièrement payer les frais de son université. Avant de partir, a-t-elle dit, passez à mon bureau pour m'indiquer le montant de vos frais pour que je vous donne le chèque demain. L'étudiante a alors expliqué ce qu'elle a ressenti. Après le départ de la secrétaire, je me suis agenouillé à l'endroit même où j'étais. J'ai remercié le Seigneur de sa générosité. J'ai dit à mon Père Céleste qu'il n'avait pas besoin de me bénir autant. J'avais seulement besoin du montant d'un versement mensuel et la dîme que j'avais payée le dimanche était bien petite comparée à la somme que j'allais recevoir. Et puis, elle a continué. Alors que je priais, les paroles qui se trouvent dans Malachie et qui sont déclarées si souvent par le prophète et les apôtres me sont venues à l'esprit. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Fin de citation. Caché dans le brouillard de ténèbres, la décision a été difficile à prendre. Le résultat n'était pas sûr, mais elle s'est tenue fermement à la barre de fer. Sa foi au Seigneur et au prophète du Seigneur a été confirmée. Bien que toutes les expériences ne se résolvent pas aussi immédiatement, les promesses faites aux personnes qui obéissent à la loi du jeûne et de la dîme sont absolument certaines. J'ai entendu le président Monson dire à d'anciens missionnaires, un moyen de toujours rester pratiquant dans l'Église est de toujours être honnête dans le paiement de votre dîme. Quelle belle promesse venue du premier conseiller dans la première présidence de l'Église. Pour finir, révélateur. Le mot révélateur vient du mot grec traduit par apocalypse, qui signifie faire connaître ou enlever ce qui couvre. En qualité de révélateur, les membres de la première présidence et du collège des douze apôtres font connaître les soucis précis que le Seigneur se fait à notre propos et ce que nous devons faire pour réagir. En outre, avec les nombreux choix et les nombreuses décisions que nous avons, les révélateurs attirent notre attention sur ce qui est le plus important dans notre traversée de la condition mortelle. Ils nous aident à nous concentrer sur les choses importantes. En août 2005, le président Hinckley nous a demandé de relire le livre de Mormon avant la fin de l'année. Il nous a aidés à concentrer notre temps libre sur ce que le Seigneur veut que nous fassions. Comme c'est souvent le cas dans les invitations des prophètes, le président Hinckley a ajouté une promesse. Une promesse qui est certaine, j'en suis convaincu, certaine aujourd'hui, mais aussi en août 2005. Il a dit, je vous promets, sans aucune réserve, que si chacun de vous observe ce programme simple, quel que soit le nombre de fois que vous aurez précédemment pu lire le livre de Mormon, une mesure supplémentaire de l'Esprit du Seigneur, une résolution renforcée de marcher dans l'obéissance à ses commandements et un témoignage plus fort de l'existence réelle du Fils de Dieu entreront dans votre vie et dans votre foyer. N'avons-nous pas eu exactement la bénédiction promise par le prophète? Une jeune fille d'Ukraine a écrit, tous les matins, j'ai prié pour être guidée par le Saint-Esprit. Un miracle s'est produit. Le livre de Mormon s'est ouvert de nouveau à moi. J'ai reçu des réponses à des questions que je me posais depuis des années. Un jeune adulte une jeune adulte d'Allemagne a écrit. J'ai fait des rapprochements que je n'avais jamais fait auparavant parce que j'ai étudié plus longtemps chaque jour. Le livre de Mormon est vraiment plein de témoignages de Jésus-Christ. Mon témoignage personnel du Rédempteur s'est accru en raison de l'esprit que j'ai ressenti. Et que dire du commentaire d'une jeune famille d'Utah? Nous nous demandions même si notre fils de 4 ans écoutait parfois quand nous lisions le livre de Mormon. Mais un jour, quand nous lui avons demandé pourquoi sa chambre était tellement en désordre, il a répondu « Quelqu'un est venu piller ici ». Voici un autre exemple du rôle d'un révélateur. Le président Hinckley vous a fermement conseillé à vous, les jeunes adultes de l'Église, de faire autant d'études que possible. Dans la conférence générale d'octobre, il a dit, je cite, « J'attire votre attention sur un autre sujet qui me préoccupe beaucoup. Dans la Révélation, le Seigneur a fixé la tâche à son peuple de faire toutes les études possibles. Il a été très clair à ce sujet. » Fin de citation. Quel est le grand sujet? Le grand souci? Les études. Qui a été très clair à ce sujet? Le Seigneur. Qui vous le révèle? Son prophète. Et oui, c'est à vous qu'il s'adresse. Si vous venez d'une famille qui a peu de moyens pour payer des études, vous n'êtes peut-être pas sûr de ce que cela veut dire pour vous. Quand vous n'êtes pas sûr, tenez-vous fermement à la barre de fer. Faites confiance aux paroles du prophète. Les réponses viendront. Dans certaines parties du monde, notamment les États-Unis et en Europe, cela peut signifier que vous deviez vendre votre voiture ou habiter dans un cadre plus modeste pour pouvoir rester inscrit dans un établissement d'enseignement ou pour y retourner. Ailleurs, le sacrifice sera peut-être plus important. Dans certains pays, le fonds perpétuel d'études pourra peut-être vous aider. Dans presque tous les cas, cela requerra de la foi, de la confiance au Seigneur et à ses prophètes. Se tenir fermement à la barre de fer pour trouver votre voie. Si vous n'êtes pas sûr de la manière de suivre le conseil précis du prophète, priez de tout votre cœur et discutez de votre problème avec vos parents et votre évêque. Cela vous demandera de faire preuve de patience et de foi, mais je vous promets que des réponses arriveront et qu'une solution se présentera. J'ai vu en Amérique latine de nombreux jeunes pleins de foi recevoir des réponses. Des milliers d'entre eux se tiennent fermement à la barre de fer en faisant confiance au président Hinckley et en poursuivant leurs études. Les directives prophétiques viennent de chaque membre de la première présidence et du collège des 12 apôtres, que nous soutenons tous comme prophètes, voyants et révélateurs. Si nous avions le temps, nous pourrions examiner les conseils de chacun d'eux. Je vais vous donner un exemple de conseil de l'un des membres du Collège des 12 apôtres. Il y a presque 2 ans, frère Dallin H. Oaks vous a parlé lors d'une veillée comme la nôtre ce soir. Vous vous rappelez qu'il a attiré votre attention en soulevant la question de sortie en couple au lieu de drague. Je vois que vous vous en souvenez. Voici donc un extrait de son discours. Mes jeunes amis célibataires, nous vous conseillons de canaliser vos rencontres avec le sexe opposé en des sorties qui ont le potentiel de se développer vers le mariage et non dans la drague qui n'a que la perspective de développer les sports d'équipe comme le football. Maintenant, voici la question importante. Qu'avez-vous fait à la suite de son discours? Quelque chose a-t-il changé? Frère Eyring a donné cet avertissement. Le fait de ne pas accepter les conseils des prophètes diminue notre capacité d'accepter à l'avenir les conseils inspirés. Personnellement, chaque fois que j'ai décidé de remettre à plus tard la mise en application de conseils inspirés ou que j'ai décidé que je faisais exception, je me suis rendu compte que je me mettais en danger. Chaque fois que j'ai écouté les conseils des prophètes, que j'en ai ressenti la confirmation dans mes prières, et qu'ensuite je les ai suivis, j'ai constaté que je me mettais en sécurité. Comment vos actions des deux dernières années montrent-elles que vous vous tenez fermement à la barre de fer? Les personnes qui ont répondu positivement et rapidement au conseil des frères Hawkes ont certainement trouvé que les bénédictions des cieux ont suivi. Je vais vous lire une lettre qu'un couple d'Arizona a envoyée au siège de l'Église il y a plus d'un an après le discours de frère Hawkes. Je cite, « Vos paroles ont eu un effet durable sur notre vie. Votre conseil direct et clair nous a aidés à comprendre que sortir en couple était l'occasion de mieux faire connaissance et non pas un engagement immédiat dans une relation à long terme ou au mariage. Mais le résultat a été que nous nous sommes en effet mariés au mois de mai au temple de Washington. » Je vais demander à Cathy, ma femme, qui enseigne si bien ces principes à notre famille, de dire ce qu'elle pense de l'importance des paroles des prophètes.
Mes chers frères et sœurs, j'ai vécu une expérience il y a une vingtaine d'années qui m'a profondément influencée. Nous habitions en Floride. Nous étions allés au centre de Pieux avec nos enfants pour écouter la conférence générale. Et le mois suivant, nous avons reçu notre numéro de l'Ensign où figuraient les discours de la conférence. Nous avons décidé d'étudier le discours d'un membre de la première présidence ou du Collège des 12 apôtres pour la soirée familiale de chaque semaine. Les enfants étaient jeunes. Mais ils pouvaient lire, et nous voulions que chacun d'eux ait un exemplaire des discours pour pouvoir les annoter et les étudier ensemble. Nous n'avions pas d'endroit où nous pouvions acheter d'autres exemplaires de l'Ensign pour les enfants. Donc, je suis allée dans un centre de photocopie pour photocopier les discours. Quand j'ai eu fini, je suis allée payer et le caissier a calculé le nombre de copies. Il a annoncé que je devais approximativement $50. Je suis gênée de reconnaître m'être sentie un peu mal et avoir pensé, ça c'est beaucoup d'argent à payer pour copier ces discours pour les enfants. Et mes frères et sœurs, cette pensée m'a alors percé le cœur. Qu'est-ce que vaut pour toi le fait d'avoir les paroles de prophètes de Dieu? J'ai compris alors, et je comprends encore davantage maintenant, que rien n'a plus de valeur pour moi et pour nos enfants. Rien n'a plus de valeur pour vous et pour vos futurs enfants. Je rends témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen.
C'est une grande bénédiction d'avoir un conjoint qui a une foi inébranlable. Et je t'aime, Cathy. Dans un mois, nous aurons la possibilité de suivre la conférence générale de l'Église et d'entendre les discours des hommes dont nous avons parlé ce soir. La conférence générale est le moment de faire une pause, d'écouter les serviteurs du Seigneur et de nous fixer des objectifs pour les mois qui suivront. Veuillez réfléchir aux questions suivantes. Ai-je marqué clairement la conférence générale sur mon calendrier afin de pouvoir écouter chacune des sessions diffusées? Comment vais-je me préparer spirituellement le mois prochain à recevoir ces discours? Et à la fin de la conférence générale, nous pourrions nous demander quelles impressions est-ce que j'ai eues pendant la conférence? Quels changements nécessaires vais-je apporter dans ma vie? La barre de fer est la parole de Dieu, les Écritures, les paroles des prophètes vivants et le don du Saint-Esprit ont le pouvoir de nous garder en sécurité. Tenons-nous fermement aux paroles des prophètes. Tenons-nous fermement à la barre de fer. En conclusion, je vous fais part d'une expérience personnelle. En mars 2000, Sœur Anderson et moi avons été invités à la consécration du temple d'Albuquerque au Nouveau-Mexique. Je savais qu'on me demanderait de prendre la parole et que je devais être bref. Vêtus de blanc, nous sommes entrés dans la salle céleste. Le président Hinckley était assis dans le fauteuil du milieu, avec un membre du Collège des Douze Apôtres à sa droite et moi à sa gauche. Pendant que nous attendions avec recueillement la première session, j'ai ressenti clairement que je devais adapter le texte que j'avais préparé. L'impression m'est venue, parle des clés, parle des clés. J'ai rapidement consulté les Écritures pour trouver les passages qui expliquent les clés de la prêtrise qui ont été redonnées à la terre. Puis, et je m'en souviens comme si c'était hier, j'ai eu un sentiment spirituel puissant dans mon esprit et dans mon cœur. Ce sentiment brûlant était « L'homme qui est assis à côté de toi détient toutes les clés de la prêtrise sur la terre. L'homme qui est assis à côté de toi détient toutes les clés de la prêtrise sur la terre. » J'inspirais profondément. J'ai regardé le président Hinckley. Je n'ai pas pu nier la manifestation puissante de l'Esprit. J'ai pensé au passage d'Écriture suivant. « Car vous recevrez sa parole comme si elle sortait de ma propre bouche. Car si vous faites ces choses, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre vous. Et le Seigneur Dieu dispersera les pouvoirs des ténèbres devant vous et ébranlera les cieux pour votre bien. » Dieu, notre Père céleste, vit et il nous aime. Son Fils unique, Jésus-Christ, est notre Sauveur. Il est ressuscité. Il vit. Ils sont apparus ensemble à Joseph Smith, le prophète. Le président Hinckley est le prophète oint du Seigneur. Aujourd'hui, investi de toutes les clés, et j'en rends témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen.